Chapitre 40. Les gens qu'on emmenait dans cette cave y trouvaient la mort. Je les sus rien qu'à l'odeur. L'odeur féreuse du sang, prenante, tellement incrustée dans le sol en ciment qu'aucune quantité d'eau de Javel ni de jus de citron ne parviendrait jamais à l'enlever. Il y a des gens qui ont un atelier dans leur sous-sol. John Stephen Purcell avait une chambre de torture. Il fallait que j'allume l'ampoule du plafond. Cela foutrait en l'air ma vision nocturne, mais cela désorienterait aussi tout gangster prêt à se jeter sur moi. Debout sur la première marche, la main sur l'interrupteur à ma gauche, j'ai hésité. Je n'étais pas sûre d'avoir envie qu'il y ait de la lumière dans ce sous-sol. Je n'étais pas sûre d'avoir envie de voir. Après des heures d'un bienheureux engourdissement, mon sang-froid commençait à céder. L'odeur. Ma fille. L'odeur. Sophie. Il n'aurait pas torturé une petite fille. Qu'aurait-il eu à y gagner? Qu'aurait bien pu leur dire Sophie? J'ai fermé les yeux, actionné l'interrupteur. Et figé dans le profond silence qui se fait après minuit, j'ai guetté le premier gémissement de ma fille qui attendrait qu'on vienne à son secours ou la course d'un assaillant prêt à se ruer sur moi. Je n'ai rien entendu du tout. J'ai ouvert l'œil droit, compté jusqu'à 5, ouvert le gauche. La lumière crue de l'ampoule ne m'a pas fait aussi mal que je l'avais craint. Le fusil toujours dans les bras, l'épaule droite ruisselante de sang, j'ai commencé à descendre. Pas de désordre dans la cave de Purcell. Un homme de son état n'avait ni meubles de jardin, ni carton de vieillerie, ni boîte de décoration de Noël. Cet espace dégagé contenait un lave-linge, un sèche-linge, un évier de buanderie et une grande table en inox. Une table bordée d'une rigole, exactement comme celle qu'on trouve dans les morgues. La rigole descendait vers un plateau au pied de la table auquel on pouvait raccorder un tuyau pour évacuer les liquides vers l'évier. Manifestement, quand il brisait des rotules ou sectionnait des phalanges, Purcell aimait faire les choses proprement. Mais vu la grande tache rose au sol, il n'était pas toujours possible d'éviter les éclaboussures. À côté de la table en inox se trouvait une vieille table pliante avec divers instruments disposés comme ceux d'un chirurgien. Chaque ustensile avait été récemment nettoyé, et les lames fraîchement aiguisées miroitaient sous l'ampoule du plafond. J'aurais parié que Purcell consacrait beaucoup de temps à disposer son matériel avec minutie, qu'il prenait plaisir à laisser ses victimes découvrir toute la palette de ses instruments pour que leur cerveau terrifié anticipe et lui mâche le travail. Après quoi, il devait les ligoter sur la table. J'imaginais que la plupart commençaient à vider leurs sacs avant même qu'ils se soient emparés de la première paire de tenailles, et j'aurais parié que cela ne les sauvait pas. Je suis passé devant la table, l'évier, le lave-linge et le sèche-linge. Derrière l'escalier, j'ai trouvé une porte qui menait à la réserve. Collé dos au mur sur le côté, j'ai tendu la main vers la poignée pour ouvrir. Personne n'a surgi en trombe. Aucune enfant ne m'a accueilli avec des pleurs. Toujours tremblante de nervosité, d'épuisement et d'un effroi qui me taraudait en silence, je me suis accroupie. J'ai mis mon fusil en joue et je me suis élancée dans l'obscurité. Pour me retrouver nez à nez avec un bidon d'essence, un chauffe-eau, la caisse à outils et quelques étagères en plastique qui ployaient sous le poids de divers produits ménagers, de liens de serrage, d'un rouleau de corde. Et d'un épais tuyau, parfait, pour finir de nettoyer au jet. Je me suis lentement relevée et j'ai eu la surprise de constater que je vacillais au bord de l'évanouissement. Le sol était mouillé, j'ai regardé par terre vaguement étonnée de voir une flaque de sang. Ça pissait le long de mon bras. Besoin d'aide. Devrais aller aux urgences. Devrais... Quoi? Appeler la cavalerie? L'amertume de cette idée m'a redonné de l'énergie. J'ai quitté la cave pour regagner les ténèbres du rez-de-chaussée, sauf que cette fois-ci j'ai allumé dans toutes les pièces. Comme je m'en doutais, j'ai trouvé tout un stock de matériel de premier secours dans la salle de bain de Purcell. Un homme qui exerçait sa profession devait s'attendre à des blessures qu'il devrait cacher, et il avait donc garni son armoire à pharmacie en conséquence. Impossible de retirer mon pull noir par la tête. Je l'ai donc découpé avec des ciseaux chirurgicaux. Ensuite, penché au-dessus du lavabo, j'ai versé de l'eau oxygénée directement dans le trou sanglant. Le choc et la douleur m'ont coupé le souffle, et je me suis violemment mordu la lèvre. Si j'avais été un vrai dur, disons... Rambo, J'aurais repêché la balle avec des baguettes chinoises et recousu la plaie avec du fil dentaire. Comme ce n'était pas dans mes cordes. J'ai bourré le trou de gaze blanche et fixé ce bouchon sanglant avec des rubans de sparadrap blanc. J'ai fait descendre 3 comprimés d'ibuprofène avec de l'eau et j'ai pris une chemise à carreaux bleu marine dans la penderie de Purcell. 2 fois trop grande, elle sentait l'assouplissant et l'eau de Cologne pour homme. L'ourlet m'arrivait à mi-cuisse et j'ai dû tant bien que mal rouler les manches pour dégager mes mains. Je n'avais jamais porté la chemise d'un homme que j'étais sur le point de tuer. Ça m'a paru étrangement intime, comme quand on se prélasse au lit dans la belle chemise de son amoureux après avoir couché avec lui pour la première fois. « Je suis allée trop loin, » me suis-je dit. « J'ai perdu une partie de moi-même. » En cherchant ma fille, je découvrais en moi un abîme dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Est-ce que retrouver Sophie rendrait cela moins douloureux? Est-ce que la lumière de son amour repousserait ses ténèbres? Et quelle importance d'ailleurs! Dès l'instant où elle était née, j'aurais donné ma vie pour mon enfant, qu'était un peu de santé mentale à côté. J'ai pris le fusil et je suis ressortie. Purcell gisait toujours au pied de la maison, les yeux fermés. J'ai cru qu'il avait perdu connaissance, mais quand la neige a crissé sous mes pieds, il a ouvert les yeux. Il était pâle. Malgré les températures négatives, de la sueur perlait sur sa lèvre supérieure. Il avait perdu beaucoup de sang. Il était probablement à l'agonie et le savait, mais ça ne semblait pas l'étonner. Purcell était de la vieille école. Quiconque se servira de l'épée périra par l'épée. Cela n'allait pas me faciliter la tâche. Je me suis accroupie à côté de lui. « Je pourrais t'emmener à la cave ?» Haussement d'épaules. « Histoire de te faire un peu tâter de tes méthodes ?» Nouveau haussement d'épaules. « Tu as raison. Je vais monter les instruments ici. Ça m'évitera de te trimballer dans toute la maison. » Encore un haussement d'épaules. D'un seul coup, j'ai regretté que Purcell n'ait pas de femme ni d'enfant. Qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas? Je ne savais pas. Mais je voulais le faire souffrir autant que lui m'avait fait souffrir. J'ai posé le fusil derrière moi, hors de portée de Purcell. Ensuite, j'ai tiré le couteau cabar et je l'ai doucement soupesé dans ma main gauche. Le regard de Purcell s'est fugitivement posé sur le couteau. Mais il n'a toujours rien dit. « Tu vas mourir des mains d'une femme, » ai-je annoncé. Et j'ai enfin eu la satisfaction de voir ses narines se dilater. Son ego, évidemment. Rien ne blesse autant un homme que d'être surclassé par une femme. « Tu te rappelles ce que tu m'as dit ce matin-là dans la cuisine ?» lui ai-je susurré. « Que si je coopérais, tout se passerait bien. Que si je te donnais mon arme de service, » tu libérerais ma famille. Et ensuite, tu t'es retournée pour abattre mon mari. J'ai fait glisser le couteau sur le devant de sa chemise. La lame a fait sauter le premier bouton, le deuxième, le troisième. En dessous, Purcell portait un t-shirt noir et la chaîne en or de rigueur. J'ai planté la pointe du couteau dans le haut du mince tissu de coton et j'ai commencé à le déchirer. Purcell regardait la lame avec une intense fascination. Je voyais son imagination se mettre en branle, lui figurer tout ce qu'une grande lame acérée comme ça pourrait lui infliger. Alors qu'il était chez lui, les mains liées, impuissant, vulnérable. « Je ne vais pas te tuer », ai-je dit en fendant le t-shirt noir. Il a ouvert de grands yeux, m'a regardé d'un air hésitant. « Tu voudrais bien, hein ?» Tombé au front. Une fin digne d'un gangster qui se respecte. Dernier bouton de la chemise. Sauté. Dernier centimètre de t-shirt. Tranché. Du bout de la lame, j'ai écarté les vêtements. Son ventre était d'une pâleur inattendue. La taille, un peu épaisse, mais ferme. Sportif. Pas immense, peut-être boxeur. Il savait qu'il était important de garder la forme dans son métier. Il faut des muscles pour traîner des corps inconscients jusqu'à la cave et les ligoter sur la table. Une certaine stature pour enlever une petite fille de 6 ans qui se débat. J'ai encore repoussé ses vêtements avec le couteau, exposé son flanc gauche. J'ai regardé son épaule nue avec fascination, la chair de poule qui grainait sa peau dans le froid. Le bourgeon rond de son téton juste au-dessus du cœur. « Tu as mis une balle à mon mari, ici, » ai-je murmuré en traçant une croix avec le couteau. Le sang est monté, dessinant un X rouge parfait sur sa peau. La lame tranchante comme un rasoir faisait des coupures bien nettes. Shane n'avait jamais plaisanté avec le matériel. « Balle suivante, ici. » J'ai déplacé la lame. Peut-être que j'ai coupé plus profond cette fois-ci parce que Purcell a inspiré en tremblant, frémi sous moi. Troisième balle, juste ici. Cette fois, j'ai clairement été profond. Quand j'ai relevé le couteau, le sang coulait le long de la lame et gouttait sur le ventre de Purcell. Du sang dans la neige blanche toute propre. Brian agonisant dans la cuisine claire, toute propre. Le truand tremblait maintenant. Je l'ai regardé en face pour qu'il voie la mort dans mes yeux, pour qu'il voie la tueuse que j'étais devenue grâce à lui. Voilà le topo. Tu me dis où est ma fille et en échange, je te détache. Je ne vais pas te donner de couteau ni quoi que ce soit d'aussi stupide, mais je te laisse une chance face à moi. Peut-être que tu prendras le dessus. Dans ce cas, tant pis pour moi. Et sinon, tu auras au moins chèrement vendu ta peau au lieu de terminer ficelée comme un dindon dans ton jardin. Tu as jusqu'à 5 pour te décider. 1. Je ne suis pas une balance, a dit Purcell avec hargne. J'ai haussé les épaules et parce que l'envie m'a pris, j'ai coupé une énorme touffe de ses épais cheveux bruns. 2. Il a tressailli sans céder.
Tu vas me tuer de toute façon.
Encore des cheveux, peut-être même un bout d'oreille.
3. Salope !
La bave du crapaud. J'ai attrapé une grosse boule de cheveux bruns au-dessus de son front, bien échauffé maintenant, je tirais fort jusqu'à voir son cuir chevelu se soulever.
4. Je n'ai pas ta fille !
A explosé Purcell.
Je ne fais pas les enfants ! Je leur ai dit dès le début, pas les enfants !
Alors, elle est où ?
C'est toi le flic ! Tu ne crois pas que tu devrais le savoir ?
J'ai donné un grand coup de couteau, coupé beaucoup de cheveux et pas d'erreur du cuir chevelu, du sang rouge à bouillonner et dégouliné sur le sol glacé rosissant dans la neige. Je me suis demandé si je connaîtrais jamais un nouvel hiver où la neige fraîche ne me donnerait pas envie de vomir. Purcell a braillé, agité de soubresauts dans ses liens.
Tu as fait confiance aux mauvaises personnes et maintenant tu t'en prends à moi ? Je t'ai rendu service. Ton mari était un minable, ton copain policier encore pire. Et comment tu crois que je suis rentré chez toi, connasse ? Tu t'imagines que ton Jules m'aurait ouvert la porte comme ça ?
Je me suis figée. Je l'ai regardé. Et j'ai compris à cet instant la pièce du puzzle qui me manquait. J'étais restée tellement sous le choc du traumatisme de samedi matin que je ne m'étais jamais posé la question de l'enchaînement des événements. Je n'avais jamais analysé la scène avec un regard de flic. Par exemple, Brian se savait déjà menacé. D'où la musculation, le récent achat du Glock 40, ses sautes d'humeur et ses colères. Il savait qu'il s'était mis dedans jusqu'au cou, alors c'est clair. Jamais il n'aurait ouvert la porte à un individu comme John Stephen Purcell, surtout avec Sophie dans la maison. Sauf que Sophie n'était plus dans la maison quand j'étais rentrée. Elle avait déjà disparu. Purcell était seul dans la cuisine avec Brian sous la menace du pistolet. Sophie avait déjà été emmenée par une deuxième personne qui avait dû arriver en même temps que lui. Quelqu'un à qui Brian avait ouvert sans se méfier. Quelqu'un qui avait accès au fonds de pension de la police, qui connaissait Shane, qui se sentait assez puissant pour contrôler tous les protagonistes. J'ai dû blêmir parce que Purcell a éclaté de rire. Une sorte de râle dans sa poitrine.
« Tu vois, je dis la vérité. Le problème, ce n'est pas moi. Ce sont les hommes autour de toi. »
Il a continué à rire. Le sang dégoulinait sur son visage et lui donnait l'air aussi fou que les sentiments que j'éprouvais. Nous étions comme deux jumeaux, me suis-je brutalement aperçu. Des soldats dans une guerre, dont les généraux usaient et abusaient, trahissaient la confiance. D'autres prenaient les décisions. Nous, nous payions les pots cassés. J'ai reposé le couteau derrière moi, à côté du fusil. Mon bras droit me lançait. À force de m'en servir, la plaie par balle s'était remise à saigner. Je sentais le liquide dégouliner de nouveau le long de mon bras. Encore des taches roses dans la neige. Ça ne durerait plus longtemps, je le savais. Et comme Purcell, je n'avais pas peur. J'étais résignée à mon sort. Lyon, c'est mort. Purcell a cessé de rire. Il se trouve que tu l'as tué il y a 2 heures. Purcell a pincé les lèvres. Il comprenait vite. De l'arrière de mon pantalon, j'ai tiré le 22 semi-automatique que j'avais trouvé scotché à l'arrière de la cuvette des toilettes dans la salle de bain. Simple arme de secours pour un type comme lui, mais ça ferait l'affaire. Acheté au marché noir, j'imagine. Numéro de série limé. Aucun moyen de remonter la piste.
Tu m'avais promis un combat à la loyale, a protesté Purcell.
Et tu m'avais promis de libérer mon mari. J'imagine que ça fait de nous 2 menteurs. Je me suis penchée vers lui. Qui tu aimes ? Lui ai-je murmuré dans la neige ensanglantée.
Personne,
a-t-il répondu d'un air las.
Je n'ai jamais aimé personne.
J'ai hoché la tête, pas étonnée. Et je l'ai abattu. 2 balles dans la tempe gauche, un classique dans les règlements de compte. Ensuite, j'ai repris le couteau et avec détachement, j'ai gravé le mot « balance » sur la peau du mort. Il fallait faire disparaître les 3 X que j'avais dessinés sur sa poitrine, sinon une enquêtrice aussi futée que Didi Warren serait directement remontée jusqu'à moi. Mon visage me faisait une drôle d'impression. Dur, sévère, même pour moi. Je me suis rappelé cette cave bien rangée où flottaient encore des odeurs d'eau de Javel et de sang, et les souffrances que Purcell aurait pris plaisir à m'infliger si je lui en avais laissé l'occasion. Peine perdue. J'étais faite pour être policière, pas tueuse. Et chaque nouvel acte de violence m'enlevait quelque chose que je ne retrouverais jamais. Mais je continuais, parce que comme toutes les femmes, j'avais un don pour le masochisme. Dernier détail. Prendre le Glock 40 de Brian dans le sac de sport et refermer la main droite de Purcell sur la crosse pour y mettre ses empreintes. Ranger le 22 de Purcell dans le sac, que je jetterai dans la première rivière venue. Planquer le Glock 40 dans la maison, scotché à l'arrière des toilettes comme le 22 l'avait été. Quelque temps après le lever du jour, des policiers découvriraient le corps de Purcell attaché au robinet, manifestement torturé, sans vie. Ils fouilleraient la maison, découvriraient sa cave, et cela répondrait à une bonne partie de leurs questions. Quand on fait carrière dans cette profession, on s'expose à mal finir. Au cours de leur fouille, ils tomberaient aussi sur le Glock 40 de Brian. Les services balistiques feraient le rapprochement avec la balle qui avait tué l'agent de police Shane Lyons et formuleraient l'hypothèse que Purcell s'était un jour introduit chez moi pour dérober l'arme de mon mari et s'en était ensuite servi pour abattre un policier unanimement respecté. L'enquête sur le meurtre de Purcell serait rangée dans les dossiers non prioritaires. Juste un malfrat qui avait trouvé une mort violente. Shane serait inhumé avec tous les honneurs dus à sa fonction et sa famille indemnisée. Bien sûr, la police chercherait l'arme qui avait servi à tuer Purcell. Elle s'interrogerait sur son meurtrier. Mais toutes les questions ne sont pas destinées à trouver des réponses. De même que tous les gens ne sont pas destinés à être crus. 1h17 du matin. Je me suis relevée en vacillant et je suis retournée à la voiture. Je me suis enfilée 2 bouteilles d'eau et 2 barres énergétiques. Épaule droite en feu, fourmis dans les doigts, sensation de creux à l'estomac. Une curieuse insensibilité sur le pourtour de mes lèvres. Et j'ai repris la route, le fusil sur les genoux, mes mains sanglantes sur le volant. Sophie, j'arrive.